RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Nous sommes ensemble de 9h à midi pour discuter, pour débattre. Aujourd'hui avec Antoine Dierce, consultant juridique. Nous sommes avec Laura Barton-Martinez, qui est sophrologue, et Abel Bouilly, l'éducateur. Voilà le programme de la deuxième heure. De quoi va-t-on parler? Quels sont les sujets sur lesquels vous allez pouvoir réagir? On va évoquer dans cette deuxième heure les retraites. Bercy réfléchit à geler les pensions pour les plus élevées. Alors les pensions les plus élevées, attention, ça démarre à 3000 euros la retraite. Ça veut dire qu'à partir de 3000 euros de retraite, vous êtes considéré comme quelqu'un d'aisé et ce ne serait pas indexé sur l'inflation de façon à pouvoir faire des économies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Les voitures électriques du côté du Royaume-Uni, on va faire une taxe au kilomètre. Si vous voulez, il y a de moins en moins de voitures essence, donc on réfléchit à une taxe au kilomètre. Est-ce qu'à votre avis, on va y avoir droit en France? 32-16, là aussi, pour le dire au GG. On va commencer à s'intéresser d'abord à ce qui s'est passé à Toulouse. Toulouse, c'est l'agression de trois policiers municipaux. L'agresseur, l'homme que les policiers ont eu des difficultés à maîtriser quand on voit les images sur les réseaux sociaux, a été hospitalisé en unité psychiatrique. Il n'a pas été maintenu en garde à vue. Son état n'était pas compatible. C'est ce qu'on dit du côté du procureur de la République. L'homme n'a toujours pas été identifié à ce stade. Il y a des recherches qui sont effectuées au niveau international, l'intéressé étant a priori étranger. Il avait trois armes blanches, dont un couteau à huître. Il a agressé des policiers municipaux. Il était légèrement alcoolisé. Et maintenant, on attend le résultat des analyses toxicologiques. On a affaire à un déséquilibré, fragile psychologiquement, soumis à des addictions, qui se trouvait en état de crise lorsqu'il s'en est pris à une patrouille de police municipale. Sauf que pour le moment, le parquet antiterroriste regarde l'affaire attentivement, mais ne s'est pas encore saisi. Pourtant, du côté de la police municipale et de l'adjoint à la sécurité, on dit il a tenu des propos qui faisaient référence à une idéologie terroriste. Voilà, il a crié plusieurs fois aussi à la Ouagbar. Alors, est-ce que l'affaire de Toulouse, elle est minimisée? Est-ce qu'on a affaire vraiment à une affaire terroriste? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Antoine Dierce.
Une nouvelle affaire, comme on en a beaucoup trop vu, qui nous amène encore les mêmes questions. Première question pour moi, c'est qu'est-ce que ce mec-là fout chez nous ? Certains évoquent le fait qu'il ait une nationalité italienne, peut-être, mais c'est une raison de plus pour aller dans le sens de ce que je défends depuis toujours, rétablissons des frontières. Tous les dégénérés du monde ne doivent pas pouvoir rentrer chez nous, venir se comporter comme ça. Deuxième chose, on est encore une fois sur la question du trouble mental. Ah, il a crié à la Akbar, mais il a un trouble mental. Mais est-ce que par définition...
Il avait visé la gorge aussi, hein, d'après ce que
disent les policiers. Pour quelqu'un de fou, il s'est très bien visé.
Est-ce que par définition, on n'a pas un trouble mental quand on est terroriste? En fait, c'est-à-dire que tous les terroristes peuvent être considérés comme étant déséquilibrés puisqu'ils sont terroristes. Moi, je pense qu'on doit arrêter avec ces histoires de troubles mentaux. Alors, il est sorti hier soir de la clinique psychiatrique, de l'établissement psychiatrique. Il a repris le cours de la garde à vue hier soir. Bon... Troisième chose, les images des policiers municipaux se défendant contre cet homme à coups de gaz lacrymogène, avec l'homme, c'est une patrouille de deux femmes et un homme, avec l'homme qui parvient à le ceinturer au niveau de la gorge. Mais en fait, pardon, mais je pense que j'aurais fait usage de l'arme à feu, je pense qu'ils en sont dotés à Toulouse, mais bien plus tôt. C'est-à-dire que dès qu'un homme se présente avec un couteau et hurle « Allah Akbar » et menace la vie de fonctionnaires... Voilà, ouverture du feu, pardon, et on essaye de pas le tuer, mais de le neutraliser, parce que là, sur les images, les agents se mettent vraiment en difficulté. Ils sont vraiment en difficulté.
Donc on a affaire à une attaque terroriste pour toi ou pas?
Mais c'est évidemment une attaque terroriste, oui. Et va se poser la question assez vite, puisque tant qu'il n'y a pas de qualification d'attaque terroriste, la garde à vue sera limitée à 48 heures, après une prolongation à 24 heures. À midi aujourd'hui, d'après ce que je comprends, on sera à 24 heures, il faudra l'avis d'un magistrat pour prolonger de 24 heures, et demain à midi, il faudra la qualification terroriste pour prolonger jusqu'à 96 heures. Ben, le parquet national financier attend, mais je reste persuadé que demain, on nous dira que c'est terroriste.
Après, les policiers rechignent toujours à tirer directement, parce que contrairement à ce que l'on croit, les policiers n'aiment pas utiliser de leurs armes. Et deuxièmement, mieux vaut interpeller la personne pour avoir des informations. Moi, ce qui me gêne avec la définition de la justice française par rapport à la notion de terroriste, c'est qu'il faut obligatoirement être relié à une organisation dite terroriste. Or, le terrorisme, c'est quoi? À la base, c'est mener une action qui sème la terreur, tout simplement, étymologiquement. Et le problème, c'est que la justice, j'ai l'impression qu'elle est tellement impactée par les vagues que l'on a eues entre 2012 et 2015, qu'il faut attendre quelque chose d'aussi grave pour caractériser un fait de terroriste. Alors que je pense que lorsqu'on a des éléments qui sont quand même probants, que la personne soit bien dans sa tête ou pas, qu'elle soit alcoolisée ou pas, d'autant plus qu'on sait que pour les jeunes qui sont partis faire le djihad, être drogué et être alcoolisé faisait partie des prérogatives justement pour être désinhibé pendant le passage à l'acte. Donc je pense qu'il faut un petit peu revoir la chose, d'autant plus que, un, aujourd'hui sur Internet, pour se radicaliser, c'est très simple, t'as des forums de radicalisation. Et deuxièmement, faut aussi trancher pour qu'il n'y ait pas de récupération politique hâtive, en fait, parce que ce flou aussi autour de la notion du terrorisme fait que on ne sait plus trop sur quel pied danser avec cette notion. Donc moi, je pense que c'est une attaque terroriste, même si il ne s'est pas fait sauter avec une ceinture explosive, même si il n'a tué personne, il y a une tentative et il doit être sanctionné de la manière qui soit. Parce que si on dit juste va faire un petit séjour en hôpital psychiatrique et après tu ressors, mais ce mec, c'est une bombe à retardement, en fait.
Ah oui.
C'est ça, la réalité. Et comme tu l'as dit, toutes les personnes qui font des...
Qu'est-ce qu'on va en faire, si tu veux, de cette personne? Alors, il faudra retrouver d'où il vient, qui il est, comment il est arrivé ici.
S'il est italien,
nationalité italienne, comment il est arrivé en Italie. Effectivement, est-ce qu'il travaille en Italie? Est-ce qu'il a de la famille? Parce que là, on a affaire à un
Oui, mais au bout d'un moment, on va encore faire...
J'arrive même pas à les qualifier,
ouais, mais au bout d'un moment,
exalter, parce que malheureusement, on en a tous les jours. On les voit qui errent dans les rues, certains avec un couteau. Il y en a encore eu en Angleterre il y a quelques jours. On se retrouve en danger directement dans nos rues. Mais
les islamistes ont créé une vague de dégénérés. C'est-à-dire que les islamistes ont une stratégie qui vise à endoctriner tous les
détenus. De toute façon, ils suppriment l'école, ils suppriment l'instruction. Ils suppriment l'instruction et ils sont endoctrinés dès le plus jeune âge.
C'est une attaque terroriste, Toulouse?
Complètement. Complètement, et ça relève tellement de choses, c'est-à-dire que déjà en France, on a une peur d'appeler un chat un chat. À un moment donné, il faut dire les choses pour pouvoir... Nier les mots ne les règle pas. Donc il faut appeler un chat, c'est une attaque terroriste.
Oui, mais si elle n'est pas revendiquée pour qu'elle soit qualifiée terroriste, tu n'as pas besoin. Peut-être qu'il a fait allégeance à un
Mais pas du tout. Mais tu n'as pas besoin, comme l'a dit Abel, tu n'en as pas besoin.
Il dit Allah Akbar.
C'est même moi qui suis Laura Vartan.
Une revendication terroriste.
Moi Laura qui suis rattachée à rien du tout. Demain, je décide que Barilla, c'est mon pire ennemi. Je vais et je tire à la Kalachnikov dans une usine Barilla. C'est un acte terroriste.
En criant Panzani.
Par exemple, et je ne suis rattachée à personne, mais selon la loi et l'étymologie du terme, elle a raison, c'est une attaque terroriste. Donc on doit appeler un chat en France. Il faut arrêter d'avoir peur des mots pour en régler les mots M-A-U-X. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, pourquoi maintenant on joue tellement avec ce problème sur la psychologie? Parce que la psychologie a été le chat noir de la médecine française. On a complètement oublié ça. Donc comme tu le dis très justement, maintenant on a l'impression de voir des fous à tous les coins de rue et on ne sait plus le distinguer le vrai du faux. Eh bien, si on avait une réelle politique psychologique dans nos hôpitaux, dans les médecins, dans les cabinets, ne serait-ce que à l'école, la psychologue scolaire de l'école, on l'a zappé complètement, on a combien de pathologies auxquelles on passe à côté? Eh bien, on pourrait s'occuper réellement de nos malades mentaux et on pourrait enfin arrêter que tous les gens qui font des actes terribles puissent se cacher justement derrière ça. Et comme l'a dit très justement Abel, on le regarde, la plupart des gens, des terroristes qui se sont fait sauter, etc., étaient eux-mêmes drogués et sous-alcoolisés, et on leur demandait de le faire pour que justement ils ne changent pas d'avis, ils n'aient pas la lucidité de changer d'avis au moment de se faire sauter.
En l'occurrence, bien souvent, ce sont pas nos malades mentaux. Bien souvent, ils arrivent de l'étranger. Et donc c'est même pas, il y a une défaillance hein, de la psychiatrie en France, mais c'est même pas l'absence de suivi, c'est qu'ils arrivent. Ils arrivent complètement en vrac. Donc le seul sujet, la seule option, c'est de ne plus leur permettre d'accéder à notre territoire. Et la question de nos frontières réglerait beaucoup de nos problèmes.
Donc t'as l'espace Schengen,
c'est du topipo, hein. On doit suspendre l'accès à l'espace Schengen. Puis, on doit permettre la libre circulation à condition de présenter toutes les garanties pour entrer.
Parce que tu vois ce qu'on dit du côté de Toulouse, pour le moment, dans l'entourage du procureur, on dit on a affaire à un déséquilibré. Mm-hmm. C'est un déséquilibré qui est très fragile psychologiquement. Ah oui, bien sûr, pour prendre trois couteaux, ensuite vouloir sauter sur une patrouille.
Enfin, tu as en série les déséquilibres aussi.
La motivation, elle est autre. Parce que sinon, je vais te dire, t'es déséquilibré, ne serait-ce que si tu veux rentrer, quand tu rentres dans une banque et que tu veux prendre de l'argent avec un flingue, t'es déséquilibré. À ce moment-là, tu vois, si tu te mets à rouler à 280 km/h sur l'autoroute,
oui, mais...
t'as un côté déséquilibré aussi. En parlant d'être déséquilibré, on est en train de nier toute responsabilité.
Voilà.
Alors, celui-ci était peut-être dans un état psychologique fragile, mais au moment où il prend les couteaux, il est plutôt dans de la préméditation et il est là à attendre et savoir qui il frappe. Et lorsqu'il voit des policiers, enfin pour lui, les policiers, ça, l'uniforme représente quelque chose.
Bah oui.
Donc il est dans un acte prémédité. Il faut arrêter de dire que c'est quelqu'un qui est déséquilibré. Quelle est sa revendication? Pourquoi il est là? Pourquoi il veut tuer des représentants de l'ordre? C'est que ça incarne quelque chose pour lui. Donc arrêtons de tourner autour
de lui. Mais même plus loin que ça, même s'il n'y a pas de revendication claire, tu prends des couteaux pour aller potentiellement planter des gens. Parce que là, il s'en est pris aux policiers parce que les policiers l'ont interpellé. Mais il aurait pu planter un enfant, il aurait pu planter une femme, il aurait pu planter n'importe qui. Étymologiquement, c'est une action qui vise à semer la terreur. Donc on a été impacté par la vague récente de terroristes qui fait que on ne sait plutôt bien comment appréhender en fait les actions, et on en a vu des gens j'accompagne des jeunes qui sont dans des forums de radicalisation sur Snapchat, sur Telegram, sur le darknet. On leur dit plaider la folie, on leur dit déjà, on leur montre des vidéos de tueries, de décapitations à longueur de journée. On leur propose de leur fournir des armes, que ce soit des couteaux, des fusils, ils peuvent choisir. On leur dit allez-y, et on leur fait croire qu'ils iront au paradis. Donc forcément, on joue sur des failles psychologiques. Ça, il y en aura toujours en réalité. Et l'autre chose, pourquoi je parlais de récupération politique, permets-moi de donner une petite anecdote. Novembre 2015, on sait ce qui se passe. La première personne qui m'appelle, c'est un ami musulman qui m'appelle en pleurs, en me disant « Abel, j'en ai marre de ces gens qui nous font chier ». Et qui nous font passer justement pour des terroristes, parce qu'après c'est sur nous que ça va retomber encore. C'est pour ça que je parle de récupération politique. On voit qu'il n'y en a pas trop pour l'instant, mais on sait qui peut dire quoi à peu près en réalité. Donc même pour les musulmans qui se comportent bien, en fait, il faut nommer les choses, parce qu'en continuant de noyer le poisson, eh ben ça va mettre tout le monde dans la confusion.
Mais tu dis pas de récupération politique. Si, il faut de la récupération politique au bon sens du terme, c'est-à-dire partant de ce fait.
Oui, pour condamner.
On doit en tirer un enseignement politique.
Bien entendu.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les réponses à apporter? Est-ce que c'est une question de frontières? Est-ce que c'est une question de politique psychiatrique et donc de prise en charge? Et donc ça, ce sont des réponses qui doivent être des réponses politiques. Donc moi, si tu veux que tous les partis ensuite s'en emparent, moi je trouve ça plutôt bien.
Mais typiquement, tu pourrais créer.
C'est même dans notre intérêt.
Tu pourrais typiquement décider que la folie, on l'enlève entre guillemets, en circonstances atténuantes, dans le droit français. Tu l'enlèves et c'est la personne est jugée comme n'importe quel citoyen, et c'est a posteriori du jugement et de la condamnation que cette personne fera des évaluations psychologiques, et si elle doit être placée dans un hôpital psychiatrique, évidemment qu'on lui apportera toute l'aide et les soins dont elles ont besoin. Mais on doit partir du principe que cette personne est en pleine conscience, qu'elle est jugée et qu'elle soit alcoolisée, parce que ça c'est pareil, quand t'es alcoolisée, t'as des circonstances atténuantes, etc.
Là on nous dit qu'il était légèrement
alcoolisé. Mais peu importe, oui, mais même n'importe quand si tu fais quelque chose de mal, si t'es alcoolisé, ça peut être une circonstance atténuante, évidemment, sauf si tu es au volant, parce que tu n'es pas en pleine possession de tes moyens. Moi je suis désolée, toutes ces genres de circonstances atténuantes, ce sont des armes pour les criminels. Ce sont des facilités pour être dans les mailles du filet. Donc tu enlèves toutes circonstances atténuantes, c'est comme les crimes passionnels, c'est pareil, tu les enlèves, tu es jugé, tu es condamné, et a posteriori de ce jugement, nous vérifierons si effectivement tu as besoin d'une aide ou d'un placement psychologique. Paste. Et là, tu vas arrêter tous ces pseudo-psychopathes, j'ai entendu des voix. Non, désolé, t'as pas entendu de voix, tu arrêtes.
Au moment où il passait à l'action, lui, j'imagine que dans sa tête, il entendait des voix.
Bienvenue au paradis, dire, voici tes vierges.
Ben, je sais pas si ça allait jusque-là, mais c'était au moins,
72,
si tu veux, quand il voit passer la patrouille, ça résonne chez lui, ça dit quelque chose, et c'est pour ça qu'il fait ça.
Mais à voir si c'est un endoctrinement ou si c'est vraiment une folie. Si c'est un endoctrinement, ben, tant pis pour lui.
On a Raph qui veut réagir, il est en Saône-et-Loire, il est conducteur de convoi. Bonjour Raph, bienvenue.
Bonjour les grands.
Quand vous avez vu les images de Toulouse et du quoi, c'est du terrorisme ou pas?
Alors moi, j'ai pas vu les images, mais quand je vous entends, pour moi, c'est pas compliqué. Terrorisme dans le dictionnaire, c'est du moment que ça fait peur à la population.
Eh ben voilà.
Donc,
voilà.
Du moment qu'il y a pas de Dieu, il y a pas quoi que ce soit, l'ETA ou le FLNC, c'était pas religieux, c'était du terrorisme. Mmh. Et ben là, c'est pareil.
Exactement.
C'est
très bon exemple.
Exactement.
Voilà. Donc du moment, c'est encore pire. Pour moi, la sanction elle devrait être encore plus grave. Et puis il y a même pas d'histoire avec le procureur. Ils s'en est pris aux forces de l'ordre. Du moment qu'on touche à l'uniforme, c'est comme du terrorisme.
Mais Raph, le problème aujourd'hui, c'est qu'on cherche la qualification terroriste. Ça répond aujourd'hui en droit à un certain nombre de, j'allais dire, de critères. Oui, si, mais ça répond à un certain nombre de critères.
Justement, faut arrêter de mettre trop de critères parce que la personne s'en est pris aux forces de l'ordre. Donc déjà rien qu'à
chercher à terroriser la population
plus grosse. Mmh. Et du moment que la population a peur d'aller dans la rue ou a peur de ces gens-là, c'est dans le dictionnaire et l'encyclopédie. Je l'ai regardé tout à l'heure. Il y a aucun moment d'une histoire de religion.
Raph, merci d'avoir été avec nous, Raph. Et au fait, merci pour les cartes postales de l'île de Ré.
Ah, de rien.
On les a reçues. C'était un voyage bel en bras, c'est ça?
Bah, pas du tout, non.
Ah, d'accord, non, c'était vos vacances.
Elles n'étaient pas financées par les GG.
Non, mais.
Je voulais payer les vacances des jumeaux, je suis d'accord.
Non, mais. Parce qu'en général, souvent, les auditeurs qui nous envoient des cartes postales, ce sont des auditeurs qui ont gagné des vacances bel en bras. Et là, Raph,
c'est pour ça.
Et là, c'est par amitié simplement qu'il nous les a envoyés.
Encore meilleur.
Merci Raph d'avoir été avec nous. À bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. En fait, dans cette histoire, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie, ou que peut-être les autorités n'ont pas envie de dire, de revenir vers le terrorisme.
Mais pourtant,
il y a une espèce, peut-être, de crainte de dire, tous ces types-là, qui sont dans la rue, qui à un moment, pètent les plombs, il faut pas les qualifier de terroristes parce que sinon, régulièrement, on va dire c'est une attaque.
On ne veut pas replonger
la population, comme tu le disais, dans ce qui était la psychose de 2015.
La population, elle a peur quand aujourd'hui tu sais que tu te balades dans certains endroits, tu peux potentiellement tomber sur ce type de profil. Mais t'es déjà sur tes gardes. Et pour les femmes, mais c'est encore pire. Parce que déjà que les femmes sortir dehors après 21h, c'est déjà dramatique. Et savoir que, en plus, après 21h, tu peux tomber sur un gars comme ça, qui peut te poignarder, voire plus quand on parle de violence sexuelle. C'est-à-dire qu'une partie de la population est déjà terrorisée. C'est pour ça qu'il y a ce ras-le-bol. C'est pour ça qu'il y a toutes ces fractures. Donc, il faut nommer les choses et il faut sanctionner. Et la circonstance aggravante, c'est de s'en prendre aux forces de l'ordre, en fait. Donc, si aujourd'hui, on montre que dans un pays comme la France, s'en prendre aux forces de l'ordre, c'est s'en sortir tranquillement. Mmh. Mais attends, va dans un pays comme l'Espagne. L'Espagne, c'est plutôt tranquille. En Espagne, on sait, tu touches pas à la police.
Ah non.
Mais amuse-toi avec la police en Italie, aux États-Unis, en Allemagne.
Aux États-Unis, je pense que la question de ce monsieur serait déjà réglée.
Amuse-toi avec la police au Maghreb ou en Afrique noire. Tu vas voir ce que c'est que violence policière. Ah,
je pense que dans ce cas-là, la
peur de la police aussi, mais la peur bienveillante, la peur dans le sens où on sait que elle va nous protéger quoi qu'il se passe. Elle est importante.
Oui, mais tu sais, moi, du coup, ce qui m'inquiète, c'est de me dire et moi, parce que là, il y avait une patrouille de police, de policiers municipaux, mais tu te dis et moi.
Non, mais là, en plus,
dans la rue, quel que soit l'endroit où je peux passer, comment je me protège s'il n'y a personne, tu vois?
Mais là,
qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on va arriver à quoi?
Mais là, en fait, on a peur de dire les mots parce que ça touche à une communauté qui est extrêmement sensible en France, qui est sensibilisée par les débats politiques, par les débats publics, et que c'est quand même les boucs émissaires des politiciens actuellement.
C'est beaucoup stigmatisé.
Exactement.
Aussi, surtout,
donc on n'ose pas le dire. Je mets ma main à couper. Raph a donné un exemple que je vais reprendre. Je mets ma main à couper. Demain, vous avez un Corse qui est nationaliste, qui n'est pas rattaché au FLNC, hein, qui est nationaliste, qui a un coup de folie, peu importe, et qui poignarde un keuf. Je pense que dans tous les journaux, tu vas avoir marqué attaque terroriste en Corse, etc. On n'a pas peur de dire les mots. Là.
Oui, mais s'il est revendiqué nationaliste.
Mais nationaliste, c'est un parti politique.
D'accord, mais s'il est revendiqué à ce moment-là et que c'est une attaque.
Mais si
c'est au nom d'une idéologie politique, là, ce sera.
Mais non, il est juste nationaliste.
Ce sera clair. Là, on ne sait pas.
Comme tu sais qu'il est italien, là, tu sais.
C'est une forme de revendication.
Mais à la Barcelone,
mais pardon, honnêtement,
je répète, la vague de terroristes nous a troublés. Tu sais, ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit. Les deux dangers terroristes en France, c'est un, c'est le terrorisme islamiste, et deuxièmement, c'est le terrorisme de l'ultra-droite. Même quand il y a des actions de l'ultra-droite qui sont souvent passées sous couvert dans les médias, on ne cite pas l'action terroriste. Il y a des gens qui descendent pour faire des ratonnades, pour poignarder. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune près de Lyon, en sortant du lycée, il s'est fait défigurer au cutter en se faisant traiter de sale arabe. Donc aussi, voilà. Hein. Oui, mais ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Le premier danger, c'est le terrorisme islamiste. Et le deuxième, c'est celui de l'ultra-droite. Oui, celui de l'extrême gauche après.
Qui dit
et c'est-à-dire que.
Oublie volontairement
oui, mais ça évolue de toute façon.
Le dernier exemple, pardon, c'est Quentin Derang avec des antifas qui tuent un homme.
Oui, mais moi, c'est pardon, pas hein, c'est du tu prends un exemple. En janvier, il y a eu un rebeu qui a été jeté dans un lac par l'ultra-droite.
La violence arrive de tous les côtés.
On va pas commencer. Ça arrive de tous les côtés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une action terroriste, c'est un acte qui vise à semer la terreur. Même normalement, à la base, une bande de jeunes qui sème la terreur dans un quartier, sur un territoire, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, où on sait que ces jeunes sont armés et qui peuvent potentiellement te tuer, je suis désolé, on est dans du terrorisme aussi sur le plan étymologique.
On a posé la question sur les réseaux sociaux, est-ce que pour vous, l'attaque de Toulouse, l'agression des policiers municipaux, l'attaque, c'est une attaque terroriste? Bah, vous dites oui à plus de 85%. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Dans un instant, on va regarder ce qui se passe au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va instaurer en 2028 une taxe kilométrique sur les véhicules électriques pour compenser les recettes qui diminuent sur les carburants pétroliers, parce qu'il y a de plus en plus de voitures hybrides et de voitures électriques. Donc ça, c'est ce que va faire le Royaume-Uni. Est-ce qu'à votre avis, on va y avoir droit en France? 32-16 pour en discuter avec les GG, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Antoine Diers, avec Laura Barton-Martinez, avec Abel Boyi. Vous venez prendre la parole avec nous. Bien sûr, le 32-16 est à votre disposition, notamment pour s'intéresser à ce qui va se passer au Royaume-Uni. Il faut toujours regarder ce que font nos voisins, parce que en matière de taxes et d'impôts, ça peut aussi nous inspirer. Au Royaume-Uni, à partir de 2028, on va avoir une taxe kilométrique sur les véhicules électriques. En fait, le gouvernement voit que les recettes que rapportent les carburants sont en train de diminuer petit à petit. Alors, le gouvernement va même jusqu'à dire qu'à partir de 2050 ou 2055, alors, c'est pas dire que les recettes seront nulles, les recettes pétrolières, mais qu'elles seront vraiment très basses. Et donc, il faut compenser.
Eh oui.
Pour compenser, on va mettre à contribution les conducteurs de véhicules électriques. Conducteurs de véhicules électriques qui seront taxés. Alors, ce sera 1 pence. Tu as la précision.
Je suis en train de calculer 3 pence par mile.
Par mile. Le mile, faut rappeler, c'est 1600 kilomètres.
1600 et quelques. Et donc, ça fait, pour 15 000 kilomètres par an, ça fait 280 livres par an, quoi.
Voilà. C'est une manière de récupérer de l'argent.
327
euros. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe au Royaume-Uni, on va y avoir droit en France? Est-ce qu'on va nous préparer? Politiquement, c'est explosif, hein. C'est-à-dire que là, vous inquiétez pas, ça va pas se faire pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous pensez qu'on aura droit à la taxe kilométrique pour les véhicules électriques? 32-16 pour en discuter avec les GG, Antoine.
C'est assez fascinant et vous trouverez que mon parallèle est peut-être exagéré, mais l'Union soviétique rationnait l'essence pour empêcher les gens d'aller loin de chez eux, voilà. Et pour moi, la voiture occidentale telle qu'on la connaît, c'est la liberté de pouvoir partir, de faire tous les kilomètres que tu veux. C'est la liberté. C'est la liberté au sens occidental du terme. À partir du moment où tu commences à regarder le kilométrage de la voiture, taxer, mais j'ai un sentiment hyper désagréable au-delà de l'argent, hyper désagréable. Tu peux plus aller où tu veux. Et donc là, le système britannique est déjà dingue, c'est que les voitures électriques payent déjà actuellement une taxe spécifique quand tu l'achètes. Donc en France, tu as du bonus aujourd'hui qui a déjà beaucoup diminué, mais la Grande-Bretagne est déjà sur une taxe spécifique en prévision du fait que tu vas consommer moins de carburant. Et là, en 2028, ils veulent mettre cette taxe-là. Mais pardon, mais on est dans l'hypocrisie absolue de tous ces gouvernements qui nous disent « Ah, mais on fait payer cher l'essence juste parce que c'est pas écologique. Hein, » Et pour vous inciter à changer de mode de propulsion. Eh bien, aujourd'hui, non, tu te rends compte que c'est juste les gouvernements qui sont complètement voraces d'argent privé, toujours, pour faire fonctionner leurs dépenses, qui trouvent des moyens, et donc qui trouveront forcément des moyens. Et donc, en France, tant qu'on n'aura pas baissé nos dépenses, eh ben on ira droit vers ce genre de solution.
Donc, ce qui veut dire que...
On y aura droit.
Ce n'est qu'une question de temps.
C'est quand même très étonnant que l'idée...
Qui roule à l'électrique, d'ailleurs, ici, ou pas ?
Hybride.
Hybride ? Non,
diesel. Rechargeable.
Oh là là.
Non mais moi je suis même
liquide AdBlue.
Moi... Alors ça va. Moi je suis même étonné que ça n'émane pas de nous cette brillantine parce qu'on est quand même les champions. Faut le dire. Il y a des taxes. Nous on est quand même champions du monde. Franchement, il y a une. Alors moi j'ai fait une émission au GG où justement Barbara nous disait qu'elle avait une voiture électrique, que c'était formidable. Et si je dis pas de bêtises, c'était Mourad qui lui disait mais bouge pas. Hein. Dans 5-6 ans, tu payeras autant de taxes sur ta Zoé que moi sur ma voiture thermique. Bon bah voilà. On y est, mais c'était sûr. C'est le même coup qu'on a eu pour l'essence. Ils nous ont dit passer au diesel. Maintenant, c'est le diesel. Et là, ça va être électrique. Et voilà. Mais est-ce que c'est étonnant? Non. Et après, ils nous diront que il y aura une nouvelle forme d'énergie. On roulera à l'eau ou quoi que ce soit. Et on nous dira, on vous taxe électrique parce que ça pollue trop, que les centrales électriques, c'est dangereux. Mettez-vous à l'eau. Puis quand on roulera à l'eau, on taxera l'eau et on nous dira, non, faut rouler au solaire parce que l'eau, on en a plus. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Et je pense que, honnêtement, je pense que personne n'est dupe. Tout le monde le savait. Moi, je connais pas une personne qui m'a pas dit, de toute façon, quand il n'y aura plus que des voitures électriques et qu'ils auront plus d'oseille avec le carburant, on se fera taxer l'électrique. Mais tout le monde le sait. C'est juste que les Anglais ont été les premiers couillus à le dire.
Tu sais, sur l'écusson de la France, là où il y a écrit RF, faut remplacer RF par RST, République soviétique des taxes. C'est obligé que ça allait arriver. Puisqu'à partir du moment où les taxes qui rentrent de la manne pétrolière et de l'essence ne rentrent plus, il faut remplacer par autre chose. Et nous, comme on est tellement fort, pourquoi faire simple quand on peut faire pire? Vous verrez que nous, on aura le mix entre la taxe kilométrique, la taxe annuelle imposée, on va te sortir un barème qui sort de nulle part, et la taxe au prorata du poids de ta voiture, parce que les écolos vont te dire...
Ça existe plus ou moins déjà en ce qui concerne le stationnement.
Non, t'inquiète pas, mais maintenant ça va être bien ouvert et on va tous boiter, excuse-moi l'expression. Et à la fin, le slogan, ça va être « Merci d'avoir sauvé le climat, maintenant payez à la caisse ». Donc, tu verras d'ici 4-5 ans, parce qu'il faut laisser passer la présidentielle, voilà, d'ici 4-5 ans, c'est bon, et ça sera au nom de la justice.
J'ai vraiment pensé comme à Antoine, parce que juste j'alimente ton truc. Quand j'ai lu l'article, dans mon premier réflexe, au-delà de l'argent, parce que comme ça je m'y attendais, pas de problème. Au-delà de l'argent, je me suis dit, mais attends, ça veut dire quoi? Que je vais leur envoyer combien de kilomètres j'ai roulé? Et je leur envoie comment? Je fais quoi? Je prends mon tableau de bord en photo et tout.
Mais
attends, donc là, bien, j'ai ou alors autant ma voiture va être pistée, rattachée à mon compte, parce que ça ils sont capables de le faire, rattachée à mon compte impôt, et donc on va savoir exactement où je vais. Je dis, ça y est, on y est.
C'est là où je voulais revenir. C'est que c'est la première fois où la taxe ne repose plus sur un produit que tu achèterais. Parce que ton électricité, tu peux l'avoir produite avec tes panneaux solaires chez toi et l'avoir mise dans ta voiture électrique. La taxe repose sur le kilomètre parcouru. C'est fou. C'est une taxe qui n'est plus sur un produit. Et donc là, on bascule dans un monde absolument ahurissant. Et le système britannique ne va pas imposer un suivi GPS, quand même, ce serait trop.
Mais nous, on est capable.
Mais nous, on fera mieux. Mais à chaque fois que tu passes au contrôle technique, il relève ton kilométrage et te facture.
Pas la différence.
Et te facture d'autant. Et tu payes de manière prévisionnelle en déclarant.
Mais tu passes pas au contrôle technique annuellement. Et ta taxe, tu dois la payer annuellement. Oui, ça veut dire que tu vas changer la règle du contrôle technique.
Tu fais un prévisionnel.
Je voudrais qu'on en parle avec quelqu'un qui défend les auto-hybrides. Vous le connaissez, il est souvent venu dans les GG au moment de la crise du carburant. Mm-hmm. Il a régulièrement été avec nous. C'est Pierre Chasseret qui est délégué général de l'association 40 millions d'auto-hybrides. Bonjour Monsieur Chasseret.
Bonjour Pierre. Bonjour.
J'imagine que vous regardez attentivement ce qui se passe au Royaume-Uni. À votre avis, ça va arriver en France?
Oui, alors vous savez, vous m'avez reçu il y a quelques semaines pour la sortie de mon livre, Balance ton plein. Dans Balance ton plein, je vous avais dit à l'époque, on en avait très peu parlé, qu'il y avait un chapitre complet qui était consacré à la défense des automobilistes en électrique. Eh bien, c'était exactement cela, dans lequel je détaille comment est arrivée cette taxe kilométrique. Donc, c'est parti de l'État d'Oregon aux États-Unis, qui a commencé à matraquer les automobilistes via des GPS connectés, via un balisage des voitures. Et qui s'est étendu, alors en Australie, en Nouvelle-Zélande, un petit peu partout. Donc c'est pas une nouveauté, évidemment. Bien sûr qu'un État toxicomane des taxes, comme en France, bien sûr que cet État ne va pas laisser passer une manne financière de 40 à 50 milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'ils feront? Eh bien, le jour où le marché sera captif, c'est-à-dire le jour où on aura un parc électrique roulant, il sera suffisant. Le jour où les Français ne pourront plus faire marche arrière, eh bien, on taxera, évidemment, comme le fait aujourd'hui le Royaume-Uni, qui a un peu plus d'honnêteté intellectuelle que la France, quoique, parce qu'en fait, sur le nombre de véhicules électriques et sur l'ancrage des ventes de véhicules électriques en Angleterre, on est à peu près similaire par rapport à...
Oui, mais là, ce sera la double peine, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous faites votre plein d'essence et qu'après vous roulez, une fois que vous avez mis l'essence, vous n'êtes plus taxé. Tandis que là, ce sera la double peine, c'est-à-dire qu'au moment où vous chargez, vous êtes déjà taxé sur la charge, et après, si vous roulez... On vous retaxera ensuite sur le kilométrage. Enfin, ça, c'est un scandale total, Pierre.
Bah, ils innovent, hein.
Oui, c'est un scandale. Évidemment que c'est un scandale, mais un scandale tellement prévisible dans un État où, en fait, on a toujours considéré, on a opposé les usagers. Les usagers en thermique versus les bons usagers en électrique. Mmh. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Eh bien, fatalement, les usagers en véhicule thermique, essence, diesel, on les matraque au quotidien à coups de taxes et ils n'en peuvent plus. Donc, ils finissent par se poser la question de savoir si, vous savez, c'est le bon vieux, chéri, il va peut-être falloir passer à l'électrique, comme le dit le Premier ministre. Mmh. Et puis, il va se passer le même syndrome qu'à chaque fois que l'État nous a envoyé dans un choix d'achat. Rappelez-vous du choix du diesel.
Voilà,
à la fin, on est piégé. Et quand on est piégé, ancré, les pieds attachés, noués avec des boulets aux pieds, on taxe. Et à la fin, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, au final, si on imposait les mêmes taxes que sur le carburant aux véhicules électriques lorsqu'ils parcourent des kilomètres, au final, ça reviendra le même prix. Et on sera pieds et poings liés à une énergie où, comme vous l'avez dit, peu importe la manière dont vous produisez l'énergie, même chez vous avec vos panneaux solaires, vous serez taxés.
Exactement.
Merci Pierre. Pierre Chasseret, merci d'avoir été avec nous. On a Jean-Jacques qui veut réagir du côté du Pas-de-Calais. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour à tous.
Je tiens à vous
féliciter pour votre émission que je regarde très régulièrement depuis de nombreuses années.
Je vous remercie de votre fidélité, Jean-Jacques. Du côté de Boulogne-sur-Mer, quand vous regardez ce qui se passe outre-Manche, là, vous vous dites
ça c'est pas loin.
Vous vous dites ça va bientôt arriver.
Ça sent déjà.
La taxe au kilomètre, Jean-Jacques, dites-moi.
Oui, c'est vrai qu'on est très très près. Non, comme j'ai dit tout à l'heure au standard, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a encore certaines personnes en France qui imaginent que le fait de passer électrique un jour ou l'autre, ça reviendra moins cher. L'État va pas s'asseoir sur environ 30 milliards de recettes. Sans sourciller. Il est évident que de petit à petit, effectivement, on va payer de plus en plus cher pour faire recharger les voitures, avec toutes les contraintes que ça donne. Mettre un plein d'essence, c'est 10 minutes, là, il faudra plusieurs heures. Effectivement, un jour ou l'autre, ça va arriver tout doucement, mais ça arrivera peut-être même brutalement, d'ailleurs. Donc oui, moi,
vous
je suis
vous êtes passé
entièrement...
à l'électrique, Jean-Jacques, ou pas?
Alors, non, pas du tout. C'est vrai que j'y pense. Alors, j'y pense fortement pour mes déplacements qui sont relativement proches, que je pourrais faire, on veut dire, dans un aller-retour avec le véhicule. Par contre, je me vois pas partir en vacances en voiture électrique.
Oui, là, d'ailleurs, il y a eu des reportages où, alors, voilà, il y a eu des endroits où ça a pris feu, et puis surtout, il y a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres pour arriver aux recharges parce qu'il y avait trop de monde et il y en a pas assez. Alors, c'est en train de se développer, bien sûr, mais pour le moment, c'est un problème. Jean-Jacques, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci surtout de votre fidélité. Donc, je regardais. Si la taxe entre en vigueur, pour quelqu'un qui roule 11 000 km par an.
Bah moi, j'avais dit 15 000, j'avais calculé 300 et quelques euros.
C'est ça, c'est à peu près aux alentours de 300 euros. Mais après, est-ce que tu serais pas gagnant finalement, parce que tu ne fais plus de plein, tu recharges.
Mais oui, mais regarde, nous,
l'électricité sera moins chère. Donc au final,
ça a augmenté au fur et à mesure les taxes.
Sera moins cher que la voiture.
Mais non, parce que
la voiture, mais non, parce que ça va être progressif. Mais oui,
c'est des taxes progressives. N'oublie pas qu'on est dans un pays où le gouvernement gouverne aimant et où le Parlement parle aimant. Et parce qu'il va falloir bichonner les irréductibles Gaulois qui vont résister en restant au thermique. Donc eux, on va leur mettre l'essence à 3 € le litre. Voilà. Comme ça, tout le monde sera gâté.
Voiture électrique, est-ce que vous pensez qu'on va avoir une taxe au kilomètre? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Faut-il instaurer comme en Angleterre? Vous dites non, certainement pas. À 77%, vous n'en voulez pas.
Ah oui.
Et ça peut se comprendre. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va continuer de parler gros sous des retraites. Vous savez, en début de semaine, on a commencé le sujet en disant le gouvernement est en train de réfléchir à geler certaines retraites. En fait, il va y avoir une désindexation pour les retraités qui touchent, ça c'est le projet, qui sont à 3 000 €. Et là, on dit à partir de 3 000 €, vous faites partie des retraités aisés. Et donc, on ne suivra pas l'inflation. Qu'est-ce que vous en dites, 32-16, pour commenter ça avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
C'est tous les jours en direct sur RMC, RMC Storyste avec vous, avec aujourd'hui Laura Barton-Martinez, sophrologue, avec Abel Bouilly, l'éducateur. Nous sommes avec l'ami Antoine Diers, qui est consultant juridique. On va regarder ce qui va se passer du côté des retraites. Du côté des retraites, précisément, vous savez que, visiblement, le gouvernement prépare un budget. Ça, c'est une certitude. Mais retourne vers la piste des retraites, savoir comment on peut économiser un peu d'argent. La désindexation des retraites les plus élevées, au-dessus de 3 000 € de l'inflation, eh bien ça, c'est une piste qui pourrait rapporter 3 milliards et demi. Donc c'est toujours bon à prendre. Écoutez la réaction de retraités rencontrés par la rédaction d'RMC.
Je crois quand même que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup cotisé à des tas de choses, donc ça me semble pas très normal.
Ma retraite, je pense que je l'ai méritée. Je vous dis, j'ai 50 ans de cotisation. Compte tenu des impôts que je paye, je pense participer à l'effort de guerre.
À la vie, comment elle est? Comment vous faites? Eh bien, vous travaillez pour quoi faire? C'est pour vivre, pas pour crever.
Alors, vous savez, comme on est en plein été et que le gouvernement, là, pour le moment, est en vacances, pas loin de Paris, mais est en vacances, c'est ce qu'on appelle le ballon d'essai estival. C'est-à-dire qu'au cœur de l'été, on fait fuiter
tout
quelques pistes de travail, pour la rentrée prochaine, et on voit comment ça réagit. Je sais qu'on écoute beaucoup les GG du côté des cabinets ministériels, et ce sera intéressant de voir ce qui se dit au 32-16. L'idée, c'est de savoir si politiquement à la rentrée ce sera explosif ou pas, et si à partir de 3 000 € vous êtes aisé ou pas, et si la gauche dit ok, à partir de 3 000 €, on peut voter cette mesure budgétaire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous considérez comme aisé à partir d'une retraite de 3 000 €? Est-ce qu'il faut geler ou pas, désindexer de l'inflation? Laura, Abel et Antoine, qu'est-ce que vous en dites?
Je trouve que c'est tout simplement une honte. Puisque là, en fait, ils sont en train de faire des économies de bout de chandelle parce qu'ils n'ont pas eu, je vais le dire en espagnol, les corones de prendre le problème à bras-le-corps quand il en était encore temps. Je ne le dirai pas.
Hein,
quand il était encore temps. Les retraites, oui, c'est un sujet. Mais là, on ne peut pas faire reposer.
C'est 400 milliards, les retraites.
Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un sujet. Moi, vous connaissez tous ma position. Je suis pour une retraite par capitalisation et où un régime universel auquel tu choisis d'adhérer, et tant pis pour toi ensuite si le truc s'effondre. Donc ça, c'est mon truc. Mais là, il va falloir arrêter de taper constamment sur les retraités. J'en ai plus qu'assez, parce que non seulement là, on décide de les désindexer, mais attention, à partir du 1er janvier, pour toutes les personnes qui vont arriver à la retraite, si vous avez un emploi à côté pour faire un complément, ce sera le salaire que vous gagnerez sera retiré de votre retraite. Donc là, on est en train de créer. Maintenant, on avait des pauvres jeunes, et ben on va faire des pauvres jeunes et vieux. Il faut que les gens se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Ce n'est plus possible. On est en train de précariser la France parce que l'État, plutôt que de solutionner réellement les problèmes, fait des économies de bout de chandelle et met des pansements, voire du mercurochrome. C'est affligeant.
Non, dit Laurent Martinez.
Annoncier, ce que je n'aime pas, c'est toujours ce cynisme politique, parce que ce débat sur les économies, sur les retraités, on le fait pas, ça fait un moment que ça dure. Et les retraités, c'est un petit peu la tranche de la population qu'il faut bichonner, parce que ce sont eux qui sont parmi ceux qui votent le plus. Mais lorsque tu as 3000 euros de retraite, c'est que tu as beaucoup cotisé, comme ça a été dit lors des vidéos.
Je rappelle que tu cotises pas pour toi. Hein.
Oui, en plus.
Tu cotises, tes cotisations du moment, c'est pour ceux qui travaillent.
Exactement.
Hein. C'est pour ceux qui sont à la retraite.
Ceux qui sont à la retraite, oui, puisque c'est le principe
après,
par répartition.
Après, c'est toi, ce que tu t'es constitué comme retraite, c'est une chose, et ce que te donne l'État, c'en est une autre.
Mais en fait, cette réflexion, en fait, ça peut être pris comme une trahison par les retraités, parce que ton contrat de retraite, en fait, c'est pas ce sur quoi tu t'es engagé en réalité. Donc, soit les politiques ont le courage de dire on rogne sur les retraites une bonne fois pour toutes, parce que il s'agit juste de ça. Tu peux utiliser les termes indexer, désindexer, ça c'est de la technocratie. Soit tu assumes, tu fais des économies sur les retraites en disant que tu assumes de fâcher des gens, tu assumes que tu veux faire des économies pour renflouer les caisses de l'État. C'est même pas pour de l'investissement, ça va être pour payer de la dette.
C'est pas pour renflouer les caisses de l'État là. C'est pour la survie d'un système.
Oui. Mais c'est pas pour de l'investissement, c'est pas pour investir, pas pour du salaire différé, c'est pas pour ça du tout. C'est parce que le porte-monnaie de la France, il est troué.
Mais non, non,
mais
non,
si, pas, mais
c'est
si,
une caisse
mais...
à part. La caisse des retraites, faut vraiment imaginer que c'est une caisse à part. Tu évoques un contrat, tu dis c'est pas le contrat. Pardon, mais le seul contrat, c'est vous cotisez pour que au moment de votre retraite, on vous donne ce qu'on pourra vous donner en fonction de ce qui rentre.
Ok.
Les gens qui ont cotisé pendant 40-50 ans ont cotisé à des niveaux qui étaient bien bien inférieurs au niveau de cotisation actuel, le niveau de cotisation que nous payons, parce que à leur époque il y avait peu de retraités. À notre époque, il y a bientôt plus de retraités que de gens qui travaillent. Et donc en fait, le système, le seul contrat, c'est que la balance doit être équilibrée. C'est ça le contrat. Eh bien aujourd'hui, en ayant augmenté massivement ce qu'on prend sur ceux qui travaillent, on doit nécessairement baisser ce qu'on donne à ceux qui sont en retraite, parce que sinon le système n'est pas équilibré. Le système n'est pas un contrat de capitalisation où on te dit je cotise et donc vous me garantissez tel niveau de pension. Le contrat, c'est ceux qui seront cotisants financeront ceux qui seront en retraite.
Dans ce cas, tu assumes de le dire alors.
Et aujourd'hui, ça ne marche plus, et je vais aller beaucoup plus loin. On devra nécessairement baisser les pensions. On devra nécessairement...
Pour tout le monde ou pour les plus aisés pour toi ?
Et alors, moi, j'y viens, c'est pour tout le monde. Là, on parle que de ceux qui ont une pension supérieure à 3000 euros par mois. A priori, ça représente, selon qu'on dise brut ou net, mais ça représente environ 8% des retraités. C'est pas beaucoup. Et ça n'ira pas chercher beaucoup d'argent. Parce qu'en plus, vous verrez qu'à ce moment-là, on dira que la désindexation ne portera que sur la tranche marginale au-dessus des 3000 euros et pas sur l'ensemble
et
des 3000 euros.
C'est de la consommation en moins. Donc en fait, c'est pas exactement les 3 milliards. T'as de la consommation en moins en plus.
Je suis désolé, mais j'ai 37 ans. Il va falloir baisser les pensions de retraite de tout le monde. Et si on ne veut pas les baisser, il faut au moins arrêter d'indexer les pensions de retraite de tout le monde. Parce que vos salaires respectifs sont-ils indexés sur l'inflation ? Non. Mon salaire n'a pas augmenté malgré l'inflation.
L'indexation complète, c'est 6 milliards. Hein. Voilà. Donc, si tu désindexes, tu récupères.
Eh ben, on désindexe pendant quelques années. On dit aux retraités, écoutez, pendant 2-3 ans, on désindexe, parce qu'en réalité, le système n'est plus tenable.
Pendant 2-3 ans, après, ça va être définitif. C'est toujours comme ça en France. Hein.
L'indexation sur l'inflation n'est pas logique.
Tu fais pas une réforme de la retraite en faisant ça.
Bah oui.
Tu comprends. Tout ce que tu fais, c'est tu gagnes du temps et tu fais des petites économies sur le budget ou sur ton déficit, quoi. Voilà. C'est ça que tu fais. Tu ne fais pas une réforme, comme le disait Laura, tu fais pas la réforme par la capitalisation.
Le fruit de la désindexation.
Tu n'enlèves pas l'âge de la retraite, tu vois, tu proposes pas une révolution du système, quoi.
Ouais. Mais le fruit de la désindexation
donc
doit
tu
aller.
Ça change rien au problème.
Le fruit de la désindexation doit aller dans un fonds souverain. Ensuite, on va devoir vendre quelques bijoux de famille français, je sais pas, des autoroutes, des aéroports, etc., pour alimenter un fonds souverain. Et ce fonds souverain sera le seul moyen de garantir la retraite future. Là, tout ce qu'on fait ne garantit rien.
On a Dominique qui veut réagir en Seine-et-Marne, qui est retraité, justement, et qui se sent concerné. Dominique, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors moi, j'ai une question sur le chiffre de 3000 euros, parce que j'entends le jeune homme qui parle là, et il dit 3000 euros brut ou net, mais enfin, ça fait une sacrée différence. Je vais vous donner mon cas. Hein. Moi, bon, je suis une ancienne fonctionnaire, j'étais prof agrégée d'anglais, donc j'ai fait une belle carrière, j'ai 3 enfants, donc j'ai une bonne retraite. Hein. En brut, j'ai 3800 euros. Mais quand arrive sur mon compte le net, il n'y a plus impôt déduit, CSG, pas tout ce que vous avez à déduire, n'est-ce pas? Il n'y a plus que 2900 euros.
Ça fait donc, quand même coup, presque 1000 euros. Je vais vous donner mon brut et mon net aussi, et vous verrez, il y a une grosse différence.
Non, c'est pas ça qu'elle dit, c'est que du coup, l'indexation, c'est sur le brut ou sur le net?
Le projet du gouvernement n'est pas très clair, a priori, sur le brut.
Il y a une grosse différence quand on fait des annonces comme ça. Il faudrait dire, est-ce que c'est du brut
c'est toujours,
ou est-ce que c'est
sur le brut? C'est toujours sur le brut, Dominique. Hein. Les taxes, les impôts, c'est toujours sur le brut.
3 000 euros brut, quand vous enlevez toutes les décotes, les impôts,
mais est-ce que vous êtes OK pour ça ou pas?
Il reste plus 3 000 euros. Il reste beaucoup moins.
Qu'est-ce que vous pensez de la mesure ou de l'idée ou du projet, Dominique?
Alors, je vous entends pas très bien, je suis désolée, mais...
Non, je dis, qu'est-ce que vous pensez de l'idée ou du projet? Ça vous scandalise ou pas, Dominique?
Alors, non, la désintégration ne me scandalise pas. Ce qui me scandalise en France régulièrement, c'est le fait que les planchers sont toujours très bas. Pourquoi 3000? Pourquoi pas 3005 ou 4000, par exemple, où là, effectivement, il y a quand même une certaine aisance derrière. Ça, je suis bien d'accord. Moi, la première, je serais prête à faire un effort. J'ai effectivement bien gagné ma vie. J'ai été une petite fourmi. Donc, j'ai fait des crédits pendant 35 ans pour avoir ce que j'ai. Parce que vous voyez, on parle aussi des retraités qui ont beaucoup plus que les jeunes actifs de 25 ans ou 30 ans. Mais ce que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas à 30 ans, hein. J'ai mis 35 ans à construire.
Mais Dominique, je peux vous poser une question un petit peu indiscrète. Vous votez à gauche ou à droite?
Je suis très embêtée parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien pouvoir voter dans un vrai centre.
D'accord, mais bon.
Parce qu'en fait, je suis pas pour le libéralisme,
je vais vous dire pourquoi.
Donc, je voudrais un mélange des deux, en fait.
D'accord, parce
quelque
que
quelque chose Macron... qui aide, mais qui permet aussi, qui responsabilise aussi. Je suis très embêtée parce que on n'a pas ça.
D'accord. Parce que j'étais en train de me dire, en fait, parce que ce sont les retraités qui souvent font l'élection. Mais je vous posais la question pour savoir, le retraité qui a plus de 3000 ou 4000 euros par mois, comment il vote? Est-ce que le gouvernement se dit, de toute façon, comme on sera pas reconduit, les élections, c'est pas pour nous, on pourra sortir ou partir en disant, voyez, les choses difficiles, on les a fait, c'est pas grave, il n'y a pas d'élection législative, il y a la présidentielle, peut-être que pour le centre ou quoi, elle est perdue, donc on s'achète le Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale, peut-être même une partie de LFI, j'en sais rien du tout, en disant, on tape sur les retraités les plus aisés, et puis après, débrouillez-vous, et puis on montre qu'on a fait une mesure impopulaire et qu'on essaye de faire des économies. C'est pour ça, tu vois, mais je me dis derrière, pour qui vote-t-il, contre qui pourrait-il, vers qui pourrait-il se venger, pour qui pourrait-il voter, quoi. Ces retraités à plus de 3000 euros. Vers qui se tournerait leur colère, quoi.
Je pense que précisément, c'est l'avenir du Bloc central.
Et voilà.
De ne jamais faire cette réforme parce que c'est son électorat. Et parce que Édouard Philippe, Gabriel Attal, quand même, c'est sérieux. Et puis, il touche pas aux retraites.
Tu en veux une autre mesure? On va s'intéresser dans un instant à ce que dit l'inspection des finances. Là, on était sur les retraites et qui veut nettoyer les primes des fonctionnaires. 543 primes aujourd'hui.
19 milliards, hein. C'est un peu plus que 3
milliards. Voilà. 19 milliards. Et là aussi, faut-il raboter les primes des fonctionnaires? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.